donc, comme l'a dit Raoul, Gilles, tu vas nous remonter le moral maintenant.
Je vais essayer, mais moi, ma mission est un peu différente, parce que mon métier est différent aussi. Je suis jardinier, je fais des jardins, je travaille dans l'espace public. Ma mission, elle porte sur des dimensions qui sont à la fois sociales, artistiques, ça, tout ça se croise, mais il se trouve que la spécificité du métier que nous faisons, elle porte sur le vivant vraiment. C'est-à-dire que dans l'espace public, il y a des architectes qui interviennent, il y a des artistes, il y a des urbanistes, parfois même il y a des sociologues, enfin beaucoup de gens, des géographes, bref. Et nous, finalement, nous sommes peut-être parmi les seuls à qui on demande quelque chose sur les plantes, c'est-à-dire sur une diversité que nous sommes censés connaître et mettre en place et manipuler. Pas génétiquement, placé dans l'espace. Et c'est pas toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des paysagistes qui font ce métier comme des architectes, c'est-à-dire finalement en structurant l'espace et en oubliant qu'on fait cette structure aussi pour par large partie avec du vivant. En ce qui me concerne, moi je me suis toujours intéressé à cet aspect-là du vivant, et justement au côté imprédictible et inventif de la vie, ce qui fait que ce qui vient de nous être dit sur le clonage, mais la sélection des soi-disant diversités de ces multinationales de semenciers qui sont en réalité des sortes de copies conformes avec très peu de différences les unes entre les autres, c'est dramatique puisque ça vient en soustraction d'une vraie capacité à inventer à partir du moment où on reste dans... on est sélectif, quoi. On ne garde qu'un critère. La vie, elle s'invente à partir d'une banque génétique de données qui est considérable, et elle peut fabriquer des solutions à tout moment dès lors qu'on n'a pas atteint cette banque, qu'on ne l'a pas réduite. Moi, j'ai été intéressé par, pas du tout scientifiquement, mais plutôt au départ de manière pragmatique et technique, à une diversité. Parce que végétal et animal, parce que ça me semblait être ce qui était le plus étonnant, tout simplement ce qui avait la plus grande capacité à nous surprendre dans un jardin. Et donc j'ai essayé dans un premier temps, c'est-à-dire dès que j'ai pu avoir un terrain, de mettre au point des techniques qui préservaient des espèces animales et végétales dans l'espace qui était le mien, parce que je ne pouvais pas faire ça chez mes clients au départ. Après, j'ai eu la possibilité de transposer ces méthodes dans des espaces, au contraire, publics. Donc, je vais montrer des images, parce que c'est comme ça que je veux... Ah, où est-ce que c'est ? Alors, vous voyez ici, vous voyez, oui, tiens, c'est bizarre, c'est un peu écrasé, enfin, on peut éteindre peut-être. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, oui, éteindre, d'accord. Donc, il s'agit d'un endroit qui est dans la Creuse, sur une arène granitique. On est dans un sol poreux, pauvre. Et la photo, elle a été prise depuis le haut d'un chêne. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un mélange entre des plantes exotiques et exogènes. Ça, il faut que vous me croyez, parce que ça ne se voit pas comme ça, surtout que la photo est un peu trouble. Mais il y a aussi une mainmise, de la taille, par exemple, des plantes qui sont un peu réduites à l'état d'objet, comme des boules, et puis, au contraire, beaucoup de liberté à travers d'autres espèces. C'est cet aspect-là qui, moi, m'intéresse le plus. J'ai travaillé beaucoup avec des espèces mobiles et vagabondes. Le chêne est disparu parce qu'une tempête l'a emporté, celle de 99-2000. Et à la place, il a donc soulevé la terre, sont arrivées ces plantes-là, qui sont des escoliers et des euphorbes. Les graines étaient là, mais moi je ne les ai pas plantées, et elles n'avaient jamais été présentes à cet endroit, et en tout cas pas les euphorbes, qui est une euphorbe coralloïdes assez commune et très, très prolifique. Elle a maintenant disparu parce que c'est une plante pérégrinante, elle se déplace. Elle a un cycle relativement court, elle est entre les annuelles et les vivaces. Donc j'avais un jardin qui est apparu directement. Et mon idée était, comme toujours dans ce mode de jardinage, d'exploiter ce qui arrive, de ne pas venir contre, de faire le plus possible avec. Dans le même endroit, mais plus tard, vous voyez, c'est récent, c'est il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, eh bien, les euphorbes ont disparu, les pavots sont arrivés. Alors ceux-là, certaines de ces graines, j'en avais trouvé semées, mais pas à cet endroit-là. Ce sont toujours les vents, les animaux qui transportent tout ça. Les leucanthèmes, les marguerites se sont installées parce que c'était une année très sèche. Les lychnis, les mullein, ce sont les grandes plantes fleurs jaunes. Et tout ça, ce sont vraiment des plantes vagabondes qui ont des tendances, surtout les bisannuelles, à se déplacer. Et j'ai donc tenu compte systématiquement de ces dynamiques, toujours dans le souci de préserver la diversité. Alors, cet exemple-là c'est une autre notion, mais ça fait partie de la même prise de position. Il s'agit d'un arbre qui est tombé. C'est un pommier. Et vous le voyez couché, presque complètement horizontal. Il a toujours les racines au même endroit, mais le houppier est déporté. Et j'ai considéré qu'il y avait une possibilité de le garder en vie, parce qu'il allait réitérer ce qu'il a fait, évidemment. Après, j'ai été obligé de couper une partie de la tête, enfin une grosse partie du tronc. Mais ça m'a également amené à introduire un mode de gestion différencié en réservant des plages d'herbe ne pouvant plus passer sous le tronc. Et ça a été le début, une des raisons, enfin, des causes du jardin, de la technique du jardin en mouvement, que j'appelle jardin en mouvement. Le jardin en mouvement, c'est un jardin où le jardinier suit les mouvements qui sont souvent des déplacements physiques, en tout cas suit les énergies et les déplacements physiques des espèces dans le terrain. En tout cas, j'ai vu arriver des plantes qui ne seraient pas arrivées si j'avais tondu tout. Vous voyez, l'arbre ici, c'est le même. Il est pris il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, et ici il y a 3 ans. Alors on voit que cet arbre, les racines sont toujours à droite, il n'y en a pas ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racine adventive. J'ai sélectionné une réitération seulement. J'ai éliminé d'autres qui étaient tout le long du tronc et qui pouvaient être gênantes. Mais enfin, quelquefois on peut les garder aussi, ça peut faire un rideau, ça dépend ce qu'on veut. Comme je voulais des fruits, et en effet il a redonné des fruits. J'ai conservé seulement un axe. Ça fait partie des mécanismes qui illustrent ces capacités des arbres, presque tous les ligneux sur la planète, à se régénérer dans le temps au point d'apparaître presque comme immortels, parce que même s'ils ont un accident, même s'ils disparaissent partiellement, quelque chose repousse qui leur appartient. C'est ça les réitérations. Et qui viennent souvent du lignotibère, du lignotubère, qui est la partie la plus en bas ou sur le tronc. Et aujourd'hui, les scientifiques considèrent que un arbre, en réalité, n'est pas un sujet unique, mais plutôt une colonie, et que l'ensemble de ces réitérations sont des individus qui eux-mêmes se diversifient comme un massif corallien. Donc on n'a pas un sujet en face de soi comme ça, simple, mais un ensemble, une population. Ce qui fait que notre manière de jardiner s'en trouve modifiée. Et si on voit sur un arbre quelque chose qui fait que tout est nécrosé d'un côté, puis qu'il n'y a qu'une seule branche de l'autre, par exemple, ça ne veut pas dire que l'arbre est mort, il est vivant par cette branche-là, qui lui appartient. Alors ça, c'est avec cette plante qui est une grande berce, la grande berce du Caucase, extrêmement vagabonde et assez envahissante, que est née l'idée du jardin en mouvement. C'est-à-dire que, vous voyez, le pied mère est à droite, les semences sont à gauche ici, enfin les jeunes germinations. Et moi, j'ai pris la décision de les conserver, mais je savais qu'elles mourraient après avoir fait leurs graines, puisque c'est une plante bisannuelle, donc elles disparaîtraient. Vous voyez, par exemple, là, elles émettent des grandes inflorescences jusqu'à 3 mètres de haut, c'est très spectaculaire. Mais elles disparaissent, elles s'en vont ailleurs après. Autrement dit, la question qui se posait à moi, c'était, puisqu'elles arrivent dans un passage, c'est une sorte de chemin, est-ce que je les laisse là parce qu'elles sont dans le chemin, est-ce que je les enlève parce qu'elles sont dans le chemin, ou est-ce que je les garde parce que je les veux? Et j'ai dit, je les garde et je change le chemin de place. Autrement dit, le jardinier suit la pérégrination des plantes. De la même façon que j'ai pris la disposition d'accepter les euphorbes tout à l'heure, et ainsi de suite. Et vous voyez, les digitales ici, elles ont le même comportement, évidemment. Alors bon, ça bouge beaucoup et ça change l'aspect d'une année sur l'autre, mais quelquefois, deux fois dans la même année, ça dépend s'il y a du regain, s'il a plu dans l'été, par exemple. Ça, c'est une bisannuelle très très mobile, les molènes. Et aujourd'hui, j'ai quatre espèces de molènes. Je ne sais pas comment elles sont arrivées. Hein. Je pense les oiseaux, j'en avais mis qu'une, moi. Ce que vous voyez sur l'image, là, ce sont deux ou trois ou quatre, même il y en a plusieurs, traces d'anciennes taupinières. Les taupinières, moi, je donne un coup de pied dedans pour arraser. Et il se trouve que ça permet, ce petit labour, à des espèces de germer, qui ont besoin de sol ouvert pour germer, pour vivre, sinon elles n'apparaissent pas parce qu'elles ne peuvent pas germer dans l'herbe comme ça, serrée comme un feutre. Et c'est le cas des messicoles. Les messicoles, on les voit plus, on les connaît pratiquement plus du tout. C'était les adventices des moissons. Vous savez, les bleuets, les coquelicots en font partie, mais bon, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des niels, il y a des nigelles, il y a des tas de choses. Bon. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les bisannuelles dont je vous parle. Enfin bref, toutes les plantes à cycle très court et qui ont besoin de sol soulevées. Ce sont des pionnières de sol ouvert. C'est donc une diversité qui est éphémère, hein. C'est une diversité qui dépend des accidents. Et évidemment, s'il n'y en a pas d'accident, elle disparaît, mais ça ne veut pas dire qu'elle est définitivement disparue. Elle est là à des tas de graines, par exemple, cette diversité, dormante ou en sommeil un peu. Si le sol n'est pas pollué, s'il n'est pas plein de désherbants, eh bien, vous gardez cette diversité, bien entendu, parce que les graines ont quelquefois des durées de vie extrêmement longues. Hein. Donc, l'accident, là, c'est la taupe, fait que tout à coup, quelque chose va arriver. Et moi, presque toujours, mes molènes viennent sur des anciennes taupinières. Donc, dans un jardin comme celui-ci, la taupe est l'assistant du jardinier. Évidemment, tout ça se déplace et change la figure du jardin au fil du temps. Bon, il y a deux molènes, là, vous voyez. Verbascum tapsus dans le fond, qui est le bouillon blanc, et Verbascum flocosus devant nous. Mais maintenant, j'ai nigrum, et puis j'en ai d'autres. Blattaria, et même j'en ai cinq, j'ai phlomoïdes aussi. Je fais des expériences sur des non-sols, c'est-à-dire des non-sols d'un point de vue pédologique ou agronomique, c'est-à-dire des roches, des choses qui sont tellement squelettiques que normalement rien ne doit pouvoir pousser dessus, ou très peu. Les saxicoles le peuvent, c'est-à-dire celles qui sont les plantes de roche. Mais plein d'autres choses en réalité, parce que c'est pas exactement stérile une roche. C'est de la nourriture, c'est même minéral directement. Si ça se dissout partiellement, c'est tout de suite assimilé par la plante encore plus vite qu'à partir de la matière organique qui demande une décomposition en matière minérale. Donc c'est immédiat. Sauf que il faut que la plante puisse s'enraciner, il faut qu'elle soit adaptée quand même à des périodes de sécheresse, parce que moi je n'arrose pas. Alors je vous ai pas dit, bien sûr, mais c'est une évidence. Je ne mets pas d'engrais. Quelquefois, j'utilise pour le potager, j'utilise des amendements qui sont organiques. Je me débrouille, je fais du purin, enfin bon, tout ce qu'on sait. Je ne mets aucun intrant et évidemment jamais, jamais, jamais d'insecticide. C'est sans doute, je pense, ce qu'il y a de plus dangereux. De toutes les produits dangereux, tous, il y en a peut-être qui le sont plus. Mais de ce que j'ai pu voir, les insecticides sont ce qu'il y a de pire parce qu'ils interrompent la chaîne écologique à un moment crucial, c'est que tout ce qui est en amont et en aval des insectes dans leur grande majorité, c'est-à-dire d'autres animaux ou d'autres plantes, en dépendent. Donc voilà un peu cette allure de ce jardin qui change. Vous voyez ici, il y a des plantes très banales, hein. Ce sont des digitales et puis des berces. Il y a des gunéras dans le fond qui, eux, ne sont pas mobiles du tout, ce sont des grosses plantes vivaces. Cette diversité, elle a été d'abord pour moi, parce que c'est un terrain que je connaissais enfant et je venais pour les insectes. J'ai pu l'acheter plus tard, enfin bon. Parce que il n'y a pas beaucoup de vent là et ils se sentent protégés, ils sont très présents. En plus, à l'époque, il y a plus de 30 ans, c'était très protégé. Je veux dire, c'était pas autant pollué que maintenant. Et cette diversité entomologique existe encore. Vous voyez, c'est une photo récente. Il y a des lucanes, il y a des cétoines, mais il y a des diptères aussi. Il y a pas mal de lépidoptères qui sont dans cet endroit. C'est sur une inflorescence de grande berce du Caucase, une plante qui a une très mauvaise réputation, hein, parce qu'elle est photosensibilisante, vous savez peut-être. Et puis qu'elle est considérée comme une, entre guillemets, je mets ça, invasive, envahissante. Enfin, c'est pas tout à fait mon avis, mais. Tous les animaux sont importants et tous sont bio-indicateurs. On a parlé avec quelqu'un tout à l'heure des plantes bio-indicatrices, les animaux le sont tous. Ça, c'est une couleuvre zamenis qui est présente, assez présente même, dans cet endroit. Et c'est une grande couleuvre, verte et jaune, on dit. Et alors, je l'appelle Edwarda parce que je leur donne des noms. Elle est assez vindicative, hein. C'est un animal qui ne se laisse pas complètement faire, mais qui, lui, a sa vie et son rythme, et surtout son régime alimentaire. Donc, évidemment, quand elle est là, ben, c'est un bon signe. J'ai appris récemment qu'on avait protégé du côté d'Épinal un lavoir, parce qu'on y avait trouvé ce genre de couleuvre, alors que d'habitude, on les existe plus au sud. Ça, c'est une photo très très rare. C'est Edwarda avec Edouard. Et on ne peut jamais prendre une photo pareille parce que il se cache pour ça et pour les accouplements. Mais là, ils savaient pas que moi je voyais ça, que je les voyais. Ils étaient dans le toit, hein, dans le double toit, mais ils se croyaient cachés. Alors c'est assez ennuyeux, hein. Ça dure longtemps, ça fait du bruit, mais c'est très intéressant à voir pendant quelques secondes. Après, on s'ennuie un peu. Donc moi j'ai essayé d'appliquer ces choses-là, pas dans cet espace que vous voyez qui est l'espace de, pas conditionnel, l'espace central, mais sur un des côtés. J'aurais proposé ça au milieu, hein, c'est-à-dire un jardin de diversité avec une gestion douce et le principe d'une immersion dans la nature plutôt qu'une domination complète. C'était un manifeste, une position manifeste, tranchant complètement avec les techniques de jardinage. Des parcs créés un siècle plus tôt dans Paris. Ça, c'est le parc André Citroën. La ville a eu peur de mettre ça dans le milieu, et donc ils l'ont placé sur un côté. Vous voyez à peu près cet angle-là. J'y ai introduit bon, d'abord semé toutes sortes une quarantaine d'espèces à l'état de graines. Là, pour le coup, c'était un des moments où j'ai utilisé, je pense, même dans l'espace public pour Paris, peut-être la première fois qu'on faisait ça. En partant de la graine, parce que toujours on part des plants, hein, dans les jardins, on n'ose pas partir de la graine. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de la graine, il y a plein d'inconnus, c'est mal maîtrisé, bref. On s'en sert peu, moi je m'en suis beaucoup servi, et j'y ai installé aussi des épineux qui sont, on en voit, c'est un rosier qui fleurit par exemple blanc là, et d'autres, hein, qui représentent. Le stade de la friche armée, qui d'habitude existe par les ronces, par les prunelliers, et non par des rosiers, sauf les églantiers. Mais là, c'est un jardin, d'ailleurs, c'est des rosiers botaniques qui ne demandent rien, ni taille, ni. Vous voyez, mais ce sont des rosiers. Or, le rôle des épineux dans une friche dite armée, c'est-à-dire un terrain qui est assez riche dans les premières années de son abandon, on voit arriver ces buissons épineux, c'est de protéger les jeunes arbres. De la prédation. Il y a de plus en plus de chevreuils, vous savez, en France. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une diversité, comment dire, mal aimée, a une raison d'exister, mais toutes les espèces ont quelque chose à faire, les unes par rapport aux autres et par rapport à nous. Donc c'est ce que voulait dire ce jardin-là. Au début, il se présentait un peu comme ça, c'est-à-dire avec des fleurs à cycle très court qui ont disparu, puisque ce sont des annuelles. Et puis là. Dans cette période, mais toujours maintenant, le jardinier est celui qui dessine ce jardin. Ça veut dire il n'y a pas de dessin sur une table à dessin. Le concepteur est celui-là. C'est celui qui est sur le terrain avec sa machine. Il a un rôle tout à fait nouveau. Il n'est plus seulement un technicien de surface qui ramasse des feuilles, mais quelqu'un qui fabrique des formes, qui a un jugement esthétique, qui reconnaît les espèces et qui fait son choix. Ça prend des figures très différentes. Vous voyez, là maintenant, ce sont des vivaces très présentes, ces inules. Enfin, le jardin change d'aspect tout en ayant le même esprit. Mais les plantes peuvent changer d'une année sur l'autre. Alors, depuis 4 ou 5 ans, nous faisons une expérience très importante. C'est la première fois en Europe, je pense, qu'on fait un jardin en mouvement sur une grande surface, c'est 6 hectares, dans un lycée agricole. Ça, c'est ça qui est important en fait. Parce que on peut dire que la gestion différenciée, qui est une gestion comme celle-ci du jardin en mouvement, qui suppose aucun intrant, une connaissance sur les végétaux, donc une vraie connaissance sur le vivant et une initiative, etc. C'est tellement peu à l'intérêt des grandes multinationales qui vendent les produits que tu as cités tout à l'heure, que évidemment c'est pas enseigné, puisqu'on sait que les programmes dans ces lycées sont faits à peu près par des représentants des postes avancés de ces gens-là. Donc, ça a été très très dur pour les trois enseignants du lycée Jules Rieffel à Saint-Herblain, près de Nantes, de faire accepter à l'administration, mais heureusement il y avait un directeur favorable, mais à tous les autres, et bien sûr ceux qui font les programmes et qui sont un peu plus éloignés de Saint-Herblain, enfin bon, quelque chose qui est de cet ordre. Hein. Ça a commencé par un module d'initiative locale. Alors ça a eu tellement de succès en réalité, qu'aujourd'hui il y a des journées portes ouvertes tout le temps, ça fait boule de neige, tout le monde veut faire ça partout, enfin, ça, ils ne savent plus où donner de la tête. Mais c'est parce que ça a été très bien mené, évidemment, par ces enseignants. Moi, j'y vais juste 3-4 fois par an pour voir comment ça se passe. Ils n'ont pas du tout besoin de moi. Hein. J'ai lancé le processus avec eux. Alors, là, par exemple, sur ce qu'ils appellent, parce qu'ils donnent des noms, ça c'est le prêt de lumière pour eux, eh bien, ils font des tracés en fonction de ce qui se passe ou de ce qu'ils veulent raconter. On ne voit pas, mais il y a eu beaucoup de travail de fait sur l'élimination de certains lignes. Ils n'utilisent que ce qu'il y a. Ça veut dire qu'ils n'apportent rien. Ils n'apportent pas de nouvelles plantes. Ils prennent ce qu'il y a sur le terrain. Il n'y a pas d'argent, de toute façon. Alors, la question ne se pose pas. Oui, ça aussi, c'est très intéressant de travailler sans argent. On est trop riche, hein, vous savez. Enfin, vous le savez, d'ailleurs, là, on a eu des preuves extravagantes. L'État n'avait plus un sou dans les caisses, sauf. Et là, vous voyez arriver des milliards, des milliards, des milliards. Bon, donc, on a de l'argent. Mais on en a trop, justement, parce que quand on veut faire des choses, quelquefois, dans un bon état d'esprit, on peut changer complètement la qualité d'un lieu. Un village chez moi s'est transformé avec des pavés autobloquants en quelque chose de banal, alors qu'il y avait un joli trottoir en granit, oui, par exemple. Mais c'était la mode. Ça coûte cher, hein, de faire ça. Bref, là, ils n'ont pas de sous et c'est du coup très intéressant. Alors, ils taillent, ils font des fenêtres, ils font des passages, des ouvertures, ils tracent des choses simples qui quelquefois se referment d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance parce que la promotion suivante reprend le travail et continue, fait quelque chose d'autre. Par exemple, ici, ils sont bien sûr, ils ont fait ces minuscules passages pour accéder, voire mettre en valeur cette Nantes, mais aussi, et ça, on ne le voit pas, passer près d'un petit ruisseau dans lequel il y avait il y a très longtemps des tritons, mais quand le terrain a été pris, il y avait surtout 10 cm d'huile de vidange, parce qu'il y avait des garages un peu plus loin. Donc plus de vie, bien entendu, là-dedans, et les tritons sont revenus. Il a fallu pas très longtemps, hein, 4-5 ans, vous voyez. Donc c'est assez encourageant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, ça n'est pas toujours irréversible. Ça peut l'être, hein, ça dépend du poison. Dans un endroit qui est très sec et où il n'y a que des chênes qui ont poussé, ils ont pris les chênes et ils ont fait 3 niveaux de taille, par exemple. Alors ça fait une sorte de labyrinthe, c'est très amusant, où il y en a qui disparaissent, ou d'autres on voit que la tête, ou d'autres le corps. Ils ont inventé plein de solutions tout à fait rudimentaires, et pour eux c'est très inventif, du coup c'est créatif, je veux dire, ça les met en grand état d'excitation, on va dire vrai, hein. Ils attendent le moment où ils vont pouvoir travailler dans ce jardin. Là, par exemple, vous voyez cette plante qui est très mal aimée, qui dans le monde pose des problèmes, l'Ulex europaeus lajon, qui est considérée comme une mauvaise herbe, qui en Nouvelle-Zélande est une peste végétale, entre guillemets, qui vient de chez nous, hein, c'est une plante européenne. Eh bien, eux, dans une parcelle qu'ils ont appelée le chaos, du fait que c'était sur les gravats de la construction du lycée, et où il y a de toutes sortes d'un terrain très chaotique, effectivement, ils ont interprété ça comme ça. Donc ils en ont fait une sculpture, fleurit moins, c'est sûr, mais c'est un usage qui est intéressant. Bon, là, ils n'ont pas trop l'air de travailler, mais ils s'intéressent quand même aussi, parce qu'on ne le voit pas, mais dans toute cette frange du fond, il y a des arbres qu'ils ont éliminés, d'autres qu'ils ont gardés. Ça a été tout intéressant. Ça ne peut pas se voir alors que cette sculpture est très démonstrative, l'on voit immédiatement qu'il y a eu du travail, mais il y en a partout en réalité. Voilà ce qu'ils font, et ils ont même creusé des tunnels et des passages dans des ronciers. Moi, ça, je n'aurais pas imaginé, parce que je trouve que c'est assez difficile de se servir des ronciers. Mais ils y sont arrivés. Les ronciers, maintenant, d'ailleurs, s'affaissent, parce que certains arbres ont poussé. Si vous savez le rôle de ces ronciers, je le disais tout à l'heure, mais au bout d'un moment, ils disparaissent sous l'ombre des arbres qu'ils ont protégés. Ça, c'est une expérience où la diversité est recensée. Alors, elle par le jardinier qui s'appelle Michel Salmeron. C'est un jardin que j'ai dessiné il y a quelques années, pas très longtemps, il est récent. C'est l'école normale dans le cœur de Lyon, près de Gerland. Il y a 4 hectares et demi à peu près et 1000 personnes qui vivent là, c'est un campus. Donc la seule partie qui est gérée de façon un peu classique, c'est la partie toute droite tondue comme un rectangle. Les deux prairies des côtés sont gérées en jardin en mouvement, mais sur la strate herbacée, tandis que tout le reste est géré en jardin en mouvement, mais avec plein de ligneux. Lui, il a en plus invité des moutons à manger l'herbe, et l'hiver, il fauche, il fait des meules pour l'hiver. Alors il y a toujours trois moutons. Je sais plus ce que c'est, des petits marrons avec des cornes qui tournent beaucoup. Hein? Peut-être bien, mais ils se reproduisent. Mais non, mais c'est bien, mais je veux dire, il ne peut en garder que trois, c'est pour vous donner la proportion. Donc, il en envoie les autres chez d'autres gens. Il a acquis une broyeuse, donc il fait du BRF, vous connaissez sans doute ça, le broyat raméal fragmenté. Il fait des mulches classiques aussi et des composts. Le résultat, c'est qu'il n'exporte plus rien. Et exporter la matière organique pour la jeter, en plus, c'est de la nourriture, ça coûte très cher en ville, hein. Mais je sais qu'ici, au parc de Bordeaux, ils font ça également depuis quelque temps. Donc bon, ils se débrouillent pour faire des passages, ça change tout le temps, donc ça c'est une des images parmi d'autres. Voilà comment ils combinent les plantes herbacées, les buissons et les fleurs. Là, par exemple, les érémurus sont associés à des molènes. Les molènes sont venues seules, mais il ne les a pas désherbées, il les a repérées et laissées fleurir. Le jardin du musée du Quai Branly n'est pas un exemple de diversité à proprement parler, mais de facilité, disons, de simplicité de gestion si on m'écoutait. C'est pas évident là-bas. Et par exemple, ils y ont mis des petits gouttes à gouttes parce je ne sais pas pourquoi, c'est culturel, hein, vous savez. Donc il faut que les plantes aient de l'eau tout le temps. Elles sont en train d'asphyxier les plantes là. Avec trop d'eau. Moi, j'ai choisi des espèces qui n'ont pas besoin d'eau, évidemment. On arrose les arbres au moment de la plantation et le reste, ça se débrouille. Il pleut à Paris quand même un peu. Bon, mon idée était de faire un paysage plutôt se référant à la savane, c'est-à-dire un paysage non occidental. Parce que ce qui est évoqué à l'intérieur du musée, ce sont des œuvres des œuvres d'art sacrées, de civilisations animistes qui sont absolument pas du tout occidentales et plutôt réparties sur la couronne tropicale. Alors une savane, pourquoi pas? On ne peut pas faire une savane à Paris, mais on peut renvoyer vers l'image de la savane. Et même en hiver, ces grands miscanthus, ils restent présents et ça donne une certaine tonalité. La mousse, alors on sait pas trop faire les jardins de mousse et les lichens encore moins, mais enfin, ça viendra peut-être. En tout cas, là, j'avais sur des formes qui évoquent la tortue pour des raisons liées aux cultures animistes, puisque c'est transversal dans beaucoup, beaucoup de cultures. Il y en a plusieurs fois des formes comme ce genre-là. J'avais, sur les bombes volcaniques, proposé d'installer des mousses. On n'y est pas arrivé, sauf le jour où Claude Figuereau, qui dirigeait jusqu'à il n'y a pas longtemps le jardin botanique de Nantes, nous a dit, mais vous mettez un peu de yaourt bio. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse, vous pouvez badigeonner les rochers d'un petit peu de yaourt bio et la mousse arrive. Très bien. Ça ne devait pas figurer dans l'exposé. Donc c'est parce que je ne veux pas être trop long, j'en avais enlevé. Enfin bon. Ça, c'est pour parler. Ça parle. Il y a très peu de plantes dans ce jardin-là. C'est un jardin à Saint-Denis de la Réunion, c'est la Drac. Mais c'est pas parce qu'il y a très peu de plantes que ça ne parle pas de la diversité. Vous voyez ici, ça valorise une herbe toute petite qui s'appelle Poganotherum paniceum, qui est l'herbe tropicale dans le creux. C'est donc une sculpture faite de lave avec des piliers qui sont destinés à servir de support pour être recouverts par un platelage. ce qui agrandit toute la surface lors des réceptions, parce que ils font des réceptions, ces gens-là. Et c'est tout petit. Sur le bord des pénicétums, quelques d'ailleurs tropicaux, et là, au milieu, une plante sur laquelle d'habitude on marche et auquel on ne fait pas attention. Donc c'est simplement pour signaler que même quelque chose de banal peut avoir de l'intérêt, et tout dépend de la façon dont on le scénographie. C'est l'hiver, la nuit. Voilà, donc c'est un... Alors maintenant, on taille en vagues ces choses-là. Alors ça, par contre, c'est une expérience que je mène depuis maintenant 11 ou 12 ans, et c'est véritablement sur le seul sujet de la diversité. C'est un champ de 7000 mètres carrés. Quand je l'ai acheté, il y avait cette plante qui est un dactyle aggloméré, donc une graminée fourragère sans intérêt. J'y ai retourné le sol, sauf une bande témoin toute petite, pour voir la différence, et puis j'ai semé une cinquantaine d'espèces. Alors on voit sur cette image qu'il y a des tas de pionnières et des annuelles, où il y a la phacélie par exemple, c'est également une plante fourragère, puis plein d'autres choses, je ne vais pas toutes les nommer là, qui ont pas toutes disparu, mais la moitié. Et aujourd'hui, j'ai à peu près seulement la moitié des espèces qui restent, et d'autres qui ont disparu, donc, et une autre moitié qui est arrivée, c'est que le nombre est presque aussi important qu'au départ, mais ce n'est plus les mêmes. Ça s'équilibre. Je fauche une fois par an. Et je fais des comptages entomologiques. Alors là, je me suis aperçu que ce papillon, par exemple, qui n'est pas mangé par les oiseaux, c'est Thyria jacobae, la chenille du Thyria jacobae. Les poisons et pas mangé par les oiseaux, bon, elle régule la population du censon de Jacob, hein, qui est un censon très combatif, comme ça, très expansif. Donc elle a évidemment son utilité, c'est évident, mais depuis, il s'est passé qu'il y a eu un champ de maïs il y a 3 ans, je crois, maintenant 3 ou 4 ans, et bien depuis ce moment-là, je n'ai plus Thyria jacobae. Qui est certainement un bioindicateur. J'avais vu que dans la littérature suisse sur les lépidoptères, où les Suisses font très attention à tout ça, ils citaient cet animal-là comme assez fragile. Hein. Bon, c'est quand même banal. C'est la goutte de sang. Vous le connaissez sans doute. Hein. Ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur mon fond d'écran, parce que c'est le papillon que je préfère. Et Aporia crategi, il vit sur le crategus, hein, sur l'aubépine, et il a une seule génération par an, et il est rare. Ça veut dire que c'est quand même une plante qui devrait être une plante, un insecte qui devrait être très très présent. Vous voyez l'aubépine, ben non, c'est fragile aussi. J'y ai installé dans ce champ un observatoire que j'appelle le radeau des champs. C'est par allusion au radeau des cimes de Francis Allais. J'ai des jumelles, alors avec ces jumelles, je peux faire des comptages. Je vous conseille, d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder les plantes aux jumelles. Pas uniquement les animaux, les plantes aussi. On voit des choses incroyables, des écailles, des tout petits trucs, que même en s'approchant, bien sûr qu'on les voit, mais pas exactement comme ça. Les appareils d'optique sont très performants et nous permettent de voir des choses très intéressantes. Alors là, c'est au nom d'une diversité à laquelle on s'occupe. Qu'on ne regarde même pas, hein, sur les lichens, que j'ai fait cette installation récemment en Ardèche. Ça s'appelle le belvédère des lichens. Alors à partir de cet endroit qui sont comme des espèces de flaques de bois incrustées dans le rocher, on voit un paysage qui est en déprise depuis maintenant 50 ans, un petit village dans le fond, et des lichens, il y a 14 espèces de lichens. Je pensais qu'il n'y en aurait que 4. 14 ont été dénombrés, ce qui est inouï. Or, les lichens sont des bioindicateurs de très très haut niveau. Vous savez, il y a des lichens qui vous disent la pollution, pas, enfin bon. Et c'était ça le but de... Il y a un petit ouvrage, d'ailleurs, qui va avec, qui est donné aux gens qui viennent dans cet endroit. Ce qui était intéressant, c'est de savoir que la totalité de ce que vous voyez qui est boisé, et que moi j'appelle le tiers paysage maintenant, était cultivé. C'était des restanques qu'on appelle là-bas des faïs, mais complètement cultivés. Quand on voit ça, on n'y croit pas. Le paysage a beaucoup changé, c'est ça la déprise, hein, dans toutes les régions qui sont des régions accidentées. Donc ça, c'est ce belvédère. Alors maintenant, on essaye de trouver un moyen pour donner les noms des lichens et de les donner à connaître aux gens qui viennent voir. Je termine par la notion de tiers paysage parce qu'elle est exclusivement sur la diversité. Il ne s'agit pas vraiment d'installation et de jardin, sauf un que je vous montrerai, mais plutôt d'une analyse au départ, qui s'est faite à Vassivière-en-Limousin. C'est donc dans le Limousin, voilà, un endroit qui s'est boisé, volontairement d'ailleurs, parce que c'était des landes il y a 100 ans. Et le paysage, on me demandait cette analyse, je l'ai restitué comme quelque chose de binaire, avec des grandes masses forestières trouées de prairies. Donc ombre, lumière, à peu près en équilibre, une assez jolie balance d'ailleurs, c'est un joli paysage. Moi, je cherchais la diversité et je ne la trouvais pas dans les parties de forêt. Vous voyez là-haut cultivées, évidemment, ce sont des conifères et il n'y a rien en dessous, mais pas non plus dans les prairies, extrêmement traumatisées par des tas d'intrants parce qu'on engraisse l'herbe, pour engraisser des vaches, pour engraisser les gens qui vendent les, je sais pas quoi, les produits, en fait. Et donc, j'étais très déçu parce que je connais bien cette région, je suis de cette région et je ne voyais pas. Alors j'ai cherché où étaient parties ces espèces si elles étaient encore là. Et je les ai trouvées dans des lieux, vous voyez ici, entre les deux, il y a une longue bande qui est hétérogène. Effectivement, elle est abandonnée là, si les gens ne cultivent plus dans cet endroit. Là, j'ai trouvé des choses. Et puis, il n'y a rien, évidemment, vous connaissez ça. J'ai trouvé ça dans des interstices, le long des bords de route et ainsi de suite. Et dans des lieux qui sont enfouis, dans des lieux abandonnés, en pente, là où il y a des cailloux, dans les landes, ça c'est une garrigue. Donc on n'est plus dans la même région, mais c'est pour vous montrer ce que c'est qu'une friche en train d'accéder à un climax forestier très lentement, parce qu'on est sur du calcaire ici, et où il y a là une énorme diversité qui se voit à l'œil nu. Donc ce sont des lieux évidemment très très précieux. La diversité diminue quand il y a une forêt, mais enfin, en tout cas, il y a une période pendant laquelle elle est très très grande. Et chez nous, donc Limousin, les sols acides ne produisent que très très peu d'espèces d'orchidées. Les trois espèces que j'ai moi dans ma région, elles sont là sur les bords de route. Ça, c'est Orchis laxiflora. Eh bien, évidemment, que le gestionnaire, c'est-à-dire celui qui arrive avec sa machine, il a une responsabilité considérable sur le maintien de cette diversité. Parce que s'il fauche l'orchidée à un mauvais moment, c'est-à-dire là quand elle a encore du vert dans son feuillage, le bulbe ne se reconstitue pas et ainsi de suite, on perd des espèces. Or, pour moi, ça a de l'importance, ces lieux. Pourquoi? Parce que je me dis, ben voilà, tous nos vêtements, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous pouvons, tout, nous dépendons, mais totalement de cette diversité. Nous l'exploitons. Nous ne faisons que ça. Quand j'ai fait une exposition qui s'appelle Jardin planétaire, la question que je posais là, c'était, je pose toujours, comment peut-on faire pour exploiter la diversité sans la détruire? Peut-être même que on n'est pas obligé d'exploiter toute la diversité. D'ailleurs, on n'en exploite qu'une toute petite partie. Elle est d'autant plus réduite que, comme on vous l'a dit, et comme chacun peut le savoir, on réduit cette diversité pour des raisons qui sont des raisons de distribution et de commerce. Donc, on en exploite peu, mais enfin, on est un tributaire. Ça signifie que les lieux qui sont des lieux de recueil, d'accueil à la diversité, chassée partout ailleurs, elle ne peut pas pousser sur le goudron, elle ne peut pas pousser de côté dans le champ, elle est chassée, ils sont chassés. Donc, ce sont des lieux précieux, ce sont des trésors. Ça nous conditionne, c'est-à-dire que notre futur est par là. Tout le patrimoine génétique est rassemblé dans ces régions-là, qui sont finalement assez mal regardées. Des friches, des délaissés, ça veut dire quoi, vous voyez? Mais en réalité, ce sont des trésors. Vu comme ça, ce sont des trésors. Ça veut dire pour le politique que si il a un plan gestionnaire, je regarde Monsieur le maire, d'occupation des sols. Il peut avoir à dire à un moment donné, mais dans ma ville, il y a des jardins de haute sophistication, de moindre sophistication où la diversité est plus à l'aise, et à des lieux où on ne fait rien. Parce que ces lieux-là sont des lieux de liberté aussi, hein, ce n'est pas des lieux d'interdit, mais ce sont des lieux d'accueil à la diversité, qui ne peut pas être ailleurs. Elle ne le peut pas, parce que ces conditions ne sont pas réunies pour elle. Alors, j'ai eu l'occasion de cartographier ça, je ne vous montre pas tout ça, mais j'ai choisi de rassembler tous ces fragments qui sont des fragments de formes tellement différentes. Un bord de route n'a rien à voir qu'une tourbière, qui n'a rien à voir qu'une lande, qui n'a rien à voir avec, je ne sais pas, le sommet d'une montagne ou une jeune friche d'un agriculteur vient d'abandonner. Enfin, tout ça. Mais c'est toute la même question. Et toujours. Donc, je me suis dit, il faut trouver un terme pour rassembler tout ça. Et j'ai appelé ça le troisième paysage, Après avoir dit le premier les forêts, le deuxième les pâtures, ou enfin les zones d'ombre, les zones de lumière, ça fait deux. Le troisième, c'est les zones de diversité, une espèce d'entre-deux. Et puis je me suis dit non, ce sera plutôt le tiers paysage, en me référant aux tiers états. Vous savez, à l'époque d'avant la Révolution, il y avait la noblesse, le clergé, le tiers état. Le tiers état, c'était quoi? C'était tout le monde, toute la diversité, justement. Et c'est ce que disait Sieyès, hein, le révolutionnaire. Mais qu'est-ce que le tiers-État? Bah, tout. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Pas grand-chose, il n'y avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Alors, moi, je dis ça, évidemment, ça demande à devenir quelque chose à nos yeux. C'est que nous devons pouvoir connaître. Déjà, mettre un nom, le respecter, et éventuellement ne rien en faire. Mais en tout cas, pas le détruire. Alors après, bon, bah, je fais plein de choses. Des cartons de tapisserie sur la diversité, sur le tiers-paysage, enfin on m'a demandé des choses bizarres. Hein. Ça, je vous montre un Penicetum qui est une plante qui est chez nous ornementale et à Brisbane, ici en Australie, est jugée comme une plante malvenue parce qu'elle est justement dans le tiers-paysage. Donc il y a un jugement, il y a une position culturelle dessus qui est forte et qui peut poser des problèmes. Récemment, j'ai fait une exposition au Centre canadien d'architecture où j'ai installé un lustre parce que je ne savais pas comment attirer l'attention sur cette question, puisque la question était le tiers-paysage, et il fallait que les gens puissent être saisis et aller ensuite vers les textes et d'autres images. Alors là, on a mis des tas d'éléments prélevés dans un délaissé derrière le centre, qui, lui, est très propre et sans diversité, je dois dire. Il doit y avoir trois espèces plantées, c'est parfaitement réglé, sauf que si on va un tout petit peu plus loin dans un talus, on trouve plein de choses. Donc j'ai prélevé des plantes, des coquilles, des animaux et des objets de l'industrie humaine aussi. On n'a pas pu tout mettre, hein, il y avait beaucoup plus de choses que ça. Le plafond se serait effondré. Donc on a dit non, bon, ça suffira. Voilà, donc ça c'était une manière de rentrer, c'est un peu comme un processus pédagogique, si vous voulez, sur une question qui n'est pas évidente à expliquer. Et alors le seul vrai parc où j'ai pu scénographier, alors là, faire un parc... pour le public aussi bien concerné, qui parle de la diversité et surtout de la mécanique de la nature, c'est celui s'appelle le parc Matisse, celui de Lille, qui est devant la gare TGV. L'objet principal est la forme organique que vous voyez se détachant sur le carré blanc. À gauche, un boisement avec quelques clairières qui sont des jardins, et à droite, une grande esplanade par où on sort quand on vient du TGV. Et je disposais d'une colline très grande qui était le résultat de l'excavation de la gare TGV. J'en ai gardé que le sommet, qui a donc la forme que vous voyez là, qui est une forme particulière que nous avons pu finir par trouver après plein des aléas, parce que je voulais faire un carré, ça m'était interdit par les architectes des monuments historiques qui estimaient que je n'avais pas à faire quelque chose de militaire. Dans un endroit où il y avait eu des fortifications bon, autrefois, et qui étaient complètement arasées sous 2,50 m, etc. Enfin bon, c'est pas très grave, on a dit ok, on s'est battu pendant un an, on a fini par trouver la forme d'une île dans le monde qui s'appelle l'île Antipode, et qui est aux antipodes de la ville de Lille, et qui appartient à la Nouvelle-Zélande, mais qui a le même statut que celui que je voulais donner à cet objet, c'est-à-dire un statut de sanctuaire. On ne peut pas y accéder, ça est à 7,50 m de haut, et voilà. Et c'est la nature qui fabrique son paysage. Alors le travail a consisté à couler du béton, que vous voyez là, dans lequel on trouve d'ailleurs des briques Vauban à l'intérieur, parce que finalement, tout ce tas de gravats, tout le monde s'en fichait, hein, c'était historique, mais ça ne l'était pas. Et donc, bon, et on a enlevé la terre à l'extérieur. Et tout le reste au-dessus, c'est une série de plantes qui sont venues avec le vent et les oiseaux. Ça a évolué beaucoup, on fait des comptages tous les ans, et on ne peut pas y aller, on monte, on prend une échelle, on fait ça avec des gens qui sont évidemment responsables du terrain. Il y a 8 hectares en tout, hein. Elle s'appelle l'île d'Herborance maintenant, elle fait 3 500 m² ou 2 500, je ne sais plus combien, elle n'est pas très grande. Hein. Donc c'est un espace inaccessible mais petit. Alors on y fait ses relevés, on trouve beaucoup de ballons de foot aussi qu'on renvoie, parce que bon, les gens les perdent là-haut. Ça a été très difficilement perçu. Ça fait longtemps que ça a été mis en place, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Les esprits ont changé aujourd'hui, je pense que ce genre d'initiative serait plus facile à faire, mais Il y a eu une assez mauvaise communication. Les gens qui habitent la barre ici se sont plaints de trouver une friche sous leurs yeux. Bon, ça se comprend quand on n'explique pas pourquoi. Et puis maintenant, tout est bien, tout est dans l'ordre. Mais enfin, on a eu un moment un peu chaud. Martine Aubry voulait enlever tout ça. Quand elle a vu que ça lui coûterait cher, elle a dit non. Et puis après, elle a dit, on a dit, il faut planter des arbres devant, on va cacher cet objet. Puis maintenant, on se dit, on va les enlever. Enfin, ça évolue. Donc ça évolue plutôt dans le bon sens, hein. Il y a une gestion différenciée, type jardin en mouvement dans ce parc, sur tout le reste, hein, qui est assez simple. Il y a des cheminements fixes aussi, bien sûr, puis des clairières jardins qui sont très simples à gérer parce que sur des sols qui ne demandent pas d'entretien, c'est du caillou. Voilà. Alors, appartenant au tiers paysage, mais quand même un peu un sujet à part, le jardin d'Orty. J'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est un jardin important. Il est tout petit, hein, vraiment minuscule. C'est dans la ville de Melle, c'est une commande artistique pour la Biennale artistique de Melle l'année dernière. Et j'étais venu un peu avant et j'avais dit on va faire un petit lagunage, que vous voyez là, pour donner l'idée qu'il faut traiter les eaux dans cette région de France, une des plus polluées, comme la Bretagne, certains endroits comme ça. Il y a Rodia, il y a les eaux d'Exor, les eaux grises de la ville, il y a les agriculteurs autour, enfin c'est terrible. Et voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que parler des herbes et de l'eau, parce que c'est une ville arboretum extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Melle, il y a 1600 taxons, il y a 9 collections homologuées, tout ça amassé par Jean Belot, l'ancien maire qui vient de mourir. C'est un homme extraordinaire. C'est public. Ça veut dire que vous ne rentrez pas dans un arboretum fermé et payant, vous êtes dans la ville. C'est très intéressant. Hein. Donc je dis, je ne vais pas parler des arbres, on en parle trop bien là, on va parler d'autres choses. Et puis arrive la loi d'orientation agricole, que vous connaissez, qui dit interdiction des produits non homologués. Ça rejoint toute la bataille de Cocopelli, évidemment. C'est la même chose. Et ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se servir de ce qui n'a pas été homologué à très grands frais par qui on sait qui va détenir un brevet et commercialiser quelque chose. Donc, pas de purin d'ortie, près de consoude, mais plein d'autres choses. On a dit, c'est pas possible. Celui qui est responsable, principe, c'est pas Dominique Jeannot, mais un autre, Bernard Bertrand, ils ont été saisis, on a pris l'ordinateur, parce qu'en fait, cette loi est passée, et au moment de l'application, Petiot, exactement. Il a eu des soucis de 1500 euros d'amende, que je crois qu'il n'a finalement pas payé, mais, et 6 mois de prison, enfin, tout est mûr. Bon, ça n'était pas acceptable, parce que ça veut dire qu'on est sur le principe de la confiscation du bien public. L'ortie à qui appartient-elle, comme l'air, l'eau a été confisquée, ça y est, vous la payez, hein, celle que vous buvez, obligatoirement, celle du robinet, elle est payante, et sinon vous allez chercher des packs et vous vous transformez en porteur d'eau, enfin ça fait des années que ça dure. Bientôt ce sera l'air et ainsi de suite, donc tout est marchandisé, il y a des limites à ça. Il y a des limites, et il faut évidemment cette soirée prouve bien qu'il y a des gens intéressés à ce que on change. Totalement, mais on doit aller beaucoup plus loin pour parler de ces choses-là et s'opposer à cette mécanique qui effectivement est plus que mortifère pour des tas de raisons que vous connaissez. Alors moi je me suis dit, bon ben non, on arrête ça, la lagune très bien, mais on va faire un jardin d'orties. Et comme parce que j'avais des orties, parce que sinon c'est très difficile de planter des orties, je ne sais pas si vous avez essayé. Ça pousse dans des lieux très pollués. Ça veut dire très très riche. C'est une plante d'overdose, l'ortie. Quand il y a des orties, il n'y a presque que ça, parce que c'est une nitrophile. Bon, ça prend pas que le nitrate, plein d'autres choses, mais c'est véritablement la trace d'une eutrophisation, c'est-à-dire d'un sol qui a trop de choses. Là, il n'y a que ça, donc ça veut dire que c'est très pollué. Alors, j'ai installé ce petit lagunage, là, la passerelle et les orties. Donc vous voyez bien qu'il n'y a que ça. La plateforme, au milieu, on taille les orties. Jean-Luc Denis, qui s'en occupe, fait ça très soigneusement, parce que quand même, pour pas que les gens se piquent trop. Et puis, voilà, les animaux qui vivent dessus, on en parle. Je ne vous dis pas tout ce qu'on fait avec l'ortie, vous le savez. Hein, tout ce qu'on peut faire, on mange beaucoup de choses à l'ortie. Et puis le filtre, qui est un objet surdimensionné, mais enfin, simplement pour qu'il y ait une émergence et qu'on voit quelque chose dans ce jardin assez plat. Et là, on prépare, voilà, on filtre le purin. Et maintenant, depuis ce jour, on distribue tous les vendredis du purin d'ortie au marché, gratuitement. Donc on est complètement hors la loi. parce que il y a eu un amendement à cette loi, mais le décret d'application de l'amendement, pour dire bon, pour calmer le jeu, si vous voulez, n'est pas passé. Donc pour l'instant, on est toujours hors la loi. Il nous laisse tranquille, parce qu'il nous... mais on est quand même hors la loi. Bon. C'est mon premier jardin politique, mais j'y tiens évidemment beaucoup, parce qu'il est emblématique, toute une situation que je trouve, moi, assez dure et dramatique même. Alors je finis par deux images, et une, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ce qu'était la diversité, en tant que terme, pour l'instant, c'est biologique. Biodiversité, diversité biologique, enfin bon, ces choses se discutent, sémantiques, mais ça, Claude Figuereau d'ailleurs parle très bien de ces questions. Il y a bien entendu le nombre des espèces. Il y a à l'intérieur, qui ne sont d'ailleurs, vous savez, c'est toujours pas complètement connu. La diversité n'est pas complètement recensée. Pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui disparaissent, mais elle n'est pas toute recensée. Il y a la diversité variétale, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur d'une espèce. Il y a des écotypes, il y a toutes sortes de notions de diversité. Mais il y a aussi la diversité comportementale, qui est très 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 mal connue. C'est-à-dire comment un individu qui est finalement, qui a sa propre écriture génétique, un patrimoine, voilà, qui a un génome connu, comme l'autre d'à côté, mais va se comporter différemment. Pour quelles raisons, etc. Et comment il se comporterait dans des situations différentes. Ça, c'est très mal connu. C'est déjà pas très bien connu chez les humains, mais alors là, encore moins, vous pensez. Alors, je montre cette image-là parce qu'elle fait appel, cette fois-ci, allusion à ce que disait Raoul tout à l'heure, la diversité culturelle. Bien que ce soit une fourmi, que vous voyez là, qui est une fourmi verte. C'est une fourmi d'Australie. Peut-être vous avez vu ce film qui s'appelle « Le rêve des fourmis vertes », qui est un film de Werner Herzog où on voit les aborigènes australiens s'opposer à l'arrivée des bulldozers, à en mourir, parce que c'est impossible pour eux de voir arriver ces machines sur leur terrain, parce que c'est le territoire où rêvent les fourmis vertes. Moi, je suis allé là-bas voir, essayer de comprendre pourquoi les aborigènes n'ont pas de jardin. Vous savez, ce sont des nomades sédentarisés, et on peut comprendre que les Inuits, qui sont aussi des nomades sédentarisés, ne fassent pas de jardin. Sur la banquise, c'est pas commode. Mais eux, sur leur territoire, avec des, à côté de maisons, ils ont des belles maisons, comme les Blancs qui sont là, de l'administration, mais qui, eux, font leur jardin, donc ça pousse. Donc, pourquoi? Et on peut se demander. Ils n'en font jamais. Ils chassent un peu, pêchent un peu, c'est réglementé. Ils ne cueillent plus, parce qu'ils ne connaissent plus très bien les espèces qui étaient les leurs et qui connaissaient évidemment très bien dans leur nomadisme. Et donc, ils vont au supermarché, qui est là, il y en a toujours un, qui est le dernier outil du génocide, ils deviennent obèses, ils meurent, ils se suicident, etc. La situation est assez lourde. Je reviens en France, ayant pas eu de réponse là-dessus. Et finalement, comme j'en parle à des gens, on finit par quelqu'un m'envoie un texte magnifique, qui est « La cosmogonie aborigène », en gros, parce que je l'ai interprété comme ça, en réalité, ça se présente comme un poème. Mais ça dit la chose suivante, je vous le fais court. Ça dit « L'esprit rêve ». Alors l'esprit va voir la fourmi qui rêve. Et la fourmi sait rêver. Elle sait très bien ce qu'elle veut dans son rêve. Mais elle ne sait pas se servir du secret du rêve. Alors l'esprit va voir la souris qui rêve, qui sait rêver, mais qui ne sait pas se servir du secret du rêve. Ah, etc. Le kangourou, enfin tout, quoi. Et puis finalement, l'esprit va voir l'homme, qui est là, et qui rêve, et qui sait rêver, mais qui sait se servir du secret du rêve. Je pense que c'est le niveau d'acquisition de la conscience, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Alors là, il est fatigué, parce qu'il a beaucoup travaillé, ça a pris beaucoup de temps, il se couche dans la terre. Là. Mais ça, on ne peut pas toucher à ça. C'est impossible. On ne peut pas scarifier, gratter, blesser. C'est impossible. On ne peut pas imaginer qu'on va aller toucher à l'esprit. Donc ça veut dire, cette image, si je la montre là, que la façon dont on voit le monde, nous voyons le monde par rapport à nos civilisations monothéistes avec des fondements bibliques, des idées très spéciales finalement. Mais parmi d'autres, je veux dire qu'il existe énormément de cosmogonies différentes. Aller au musée des arts premiers est utile de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien qu'est-ce que ça veut dire que des créations du monde, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. parler de la tortue, eh bien, dans le monde balinais ou indo-bouddhiste, la tortue, elle est cosmophore, par exemple. Bon, bah ici, vous avez vu l'histoire dont il est question. En tout cas, la façon dont on imagine le monde, dont on voit, dont on le pense, ça, la cosmogonie précisément, a une incidence immédiate sur la façon dont on s'occupe de ce monde. Comment on le gère, comment on intervient dessus. Donc c'est pour moi, pour le jardin planétaire, c'est la façon dont chacun est jardinier sur cette planète. Et c'est différent à chaque fois. Donc on ne peut pas complètement dire que on va appliquer un modèle, par exemple, de jardinage idéal sur toute la planète de la même façon, parce qu'on est quand même obligé, à un moment donné, de rentrer dans un système culturel qui fait que les populations sont capables de se servir de ces outils ou pas. Et le mieux, c'est évidemment qu'ils les inventent à partir de leur vision, dès lors que ça rentre dans un mode gestionnaire qui est doux et que ça répond à cette question-là, comment exploiter sans détruire. Alors, la dernière image, c'est une image qui porte sur notre niveau d'ignorance, globalement. Ce sont des arbres qui s'appellent Samanéa-saman. Ce sont des arbres tropicaux qui se trouvent ici, de chaque côté d'une route. On est en Australie, mais enfin, ils sont originaires d'Amérique, ça n'a pas d'importance. On voit le long des sortes de fourreaux qui sont velvet fern, c'est-à-dire un velours, mais c'est une fougère, épiphyte. Et puis un feuillage très très clair, donne une très jolie ombre, c'est un arbre connu et planté dans les alignements. Ce que l'on voit là, c'est que les frondaisons ne se touchent pas, ne s'interpénètrent pas, se rencontrent pas du tout. Il y a une espèce de lumière que vous voyez ici sur cette image en diagonale et que les scientifiques appellent une fissure de timidité. Bon, parce qu'ils ne savent pas comment. C'est le niveau d'ignorance. Mais s'ils choisissent de l'appeler comme ça, c'est parce que il y a l'idée d'une communication entre les deux arbres, qui est chimique, qui est peut-être électromagnétique, qui a, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a là quelque chose. Alors, on connaît des tas d'exemples de communication entre des plantes, des animaux, quelques-uns, pas beaucoup, mais très, très, très peu. Et ça, quand on découvre cette chose-là qui est récente, hein, c'est comme les histoires de réitération sur les arbres, ce sont des choses étudiées depuis peut-être une vingtaine d'années maintenant, un peu sérieusement, les modèles de développement, les architectures. Des arbres dans l'espace, il y en a, paraît-il, 27, oui, pour classer tout le monde végétal, 27 modes de déploiement, par exemple, etc. Ça, ce sont des choses assez nouvelles, mais qui nous amènent, nous, en tant que jardiniers, au-devant d'une manière nouvelle aussi, d'une obligation nouvelle de nous comporter face à ces êtres-là. Parce que si on découvre qu'ils sont timides, à quelle distance on va les planter? Enfin, je ne sais pas, on peut peut-être se poser des questions de ce genre, vous voyez? Voilà ce que je voulais dire à propos de cette question particulière qui est la diversité, qui pour moi a toujours été une préoccupation, que j'essaie d'introduire dans les jardins à toutes les échelles, parce qu'il n'y a pas de questions publiques-privées, mais enfin je ne fais plus de jardin privé maintenant, donc plutôt des espaces publics et des espaces de partage. Et ce que je vois de plus en plus au fur et à mesure que je parle avec les gens, les scientifiques bien sûr, mais les gens qui sont des praticiens, et en particulier les jardiniers, qui sont les gens du terrain, c'est que il nous manque un retour. Il nous manque le retour de ceux qui savent et qui ne le disent pas. C'est-à-dire, là, on a le début d'une expérience de jardin partagé. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses qui vont être entre les mains de gens qui vont voir quelque chose qu'ils ne diront peut-être pas. Parce qu'ils n'ont pas exactement les mots pour ça. Et ça, c'est très dommage. Il y a donc un travail qui consisterait à aller chercher la connaissance là où elle se trouve. C'est pas, oui, bien sûr, les jardins familiaux, les jardins partagés, bon, toutes sortes d'expériences de jardinage. C'est pas toujours le monde scientifique, c'est pas toujours les savants. Bien sûr que eux, ils nous apportent. Mais enfin, quand quelqu'un vous dit j'ai vu que tel insecte faisait ça, que cette plante elle pousse mieux à côté de l'autre, c'est complètement empirique. C'est absolument précieux. C'est très très important. Donc en définitive, et parce que aujourd'hui les scientifiques viennent corroborer le fait qu'il y a vraiment des communications, parce que ces plantes sont des êtres vivants. Il y a vraiment des interrelations importantes et que nous avons intérêt à les connaître pour mieux nous en sortir avec elles, ces plantes, parce que sinon nous allons contre elles. Alors à ce moment-là, ces petits retours, qui sont des retours d'expérience, sont extrêmement importants. Alors merci d'avoir initié ce projet.